Donc maintenant la parole à Catherine et à Raphaël Larrère, pardon, autour du thème donc actualité de l'animal machine.
L'actualité de l'animal-machine. Alors, pourquoi parler d'animal-machine aujourd'hui? Nous sommes tous plus ou moins convaincus que l'animal est un être sensible, qu'il a la capacité de ressentir et d'exprimer des émotions, qu'il a un univers mental. Et puis, la théorie cartésienne de l'animal-machine a été privée de toute valeur heuristique et de toute portée pratique depuis longtemps. Sans doute. Mais le développement des technosciences a conduit, en fait, depuis plus d'un demi-siècle, à une nouvelle réification de l'animal. Une nouvelle réification de l'animal qui, d'une certaine façon, a eu quelques valeurs heuristiques et qui a surtout une issue pratique indéniable, l'élevage moderne et industriel. Cette réduction de l'animal à des mécanismes s'est opérée en fait en deux vagues successives, et là je vais planter le décor hein, de ce dont nous allons parler maintenant. La zootechnie moderne, celle qui va se développer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France, un peu plus tôt aux États-Unis, considère explicitement l'animal comme une machine vivante à aptitudes multiples. Hein, je tire ça d'un ouvrage de zootechnie de 1950. Certes, il ne s'agit plus de l'automate cartésien. L'animal de la zootechnie moderne est d'abord conçu comme une machine thermodynamique dont on va chercher à augmenter le rendement énergétique. Une machine thermodynamique qui transforme des produits végétaux en protéines animales et qui est dotée de complexes mécanismes d'autorégulation, une sorte d'engin cybernétique. En laboratoire, les zootechniciens ne vont donc pas se contenter de comptabiliser des flux, ils vont démonter la machine, analyser ses rouages, décrire les mécanismes et les dispositifs de contrôle du métabolisme, de la reproduction et de la production. De la microbiologie du rumen à l'endocrinologie, en passant par la physiologie de la reproduction, l'embryologie et des tas d'autres disciplines, tout un panel de spécialités ont été alors mobilisés pour affiner l'adéquation entre les besoins physiologiques de l'animal et les performances que l'on attendait de la machine. Il s'agissait de maximiser les fonctions, la nutrition, la croissance, la reproduction, d'éviter les dysfonctionnements et de parvenir ainsi à une maîtrise de la machine animale, une maîtrise d'une machine de plus en plus productive. Par exemple, en décomposant, alors ça c'est un travail que j'ai fait au tout début de ma carrière, parce que j'étais zootechnicien, donc, jadis. En décomposant les besoins alimentaires de l'animal en éléments de plus en plus simples, compte tenu de l'état de l'animal, de sa croissance, de sa production, en décomposant les aliments disponibles en fonction de leur prix dans ces mêmes éléments, de plus en plus simple, c'est-à-dire qu'on est allé d'abord glucides, lipides, protides, et puis après, à l'intérieur des glucides, on faisait des distinctions, bien évidemment, à l'intérieur des acides aminés encore plus. On est parvenu, au fond, à composer des rations les moins chères possibles, à la carte, compte tenu exactement des besoins de l'animal. Ça a augmenté considérablement la production, mais c'est aussi comme ça que l'on a recyclé les prions. On avait simplement oublié que les vaches ont un cerveau. Et si les vaches peuvent devenir folles, c'est qu'elles ne sont pas réductibles à leur fonctionnement métabolique, moins encore au fonctionnement d'une machine thermodynamique. Mais pour relative qu'elle ait été, cette maîtrise s'est traduite par une augmentation importante du rendement des machines animales et de la productivité du travail en élevage. Il s'ensuit une tendance à l'industrialisation de l'élevage. Et le modèle issu de la zootechnie moderne est un modèle qui va dissocier l'animal de son environnement. De son environnement social, d'abord. L'élevage contemporain ne tient aucun compte des formes de sociabilité et des hiérarchies qui existent dans les sociétés animales et se réalise à l'intérieur de tout troupeau. Les animaux sont traités soit par l'eau homogène, du point de vue des performances, soit à la carte et isolés les uns des autres. Ensuite, l'élevage en voie d'industrialisation est isolé de son contexte naturel. Il dépend de moins en moins des ressources produites sur l'exploitation. On a même développé l'expression systématique des ateliers hors sol. Inversement, il met en circulation dans la nature des effluents qui échappent à la maîtrise de l'éleveur, comme aux capacités de recyclage et d'absorption du milieu. Tous ceux qui se sont promenés en Bretagne, non loin de Porcherie, comprendront ce que je veux dire. La machine animale ne batifole plus dans les prés ou dans les cours de ferme. On l'enferme dans un atelier de production essentiellement conçu pour mécaniser le travail de l'éleveur. On la met en batterie, on diminue au maximum la superficie disponible par animal. S'il en est ainsi parvenu à augmenter la productivité du travail, c'est au prix de conditions de vie qui s'avèrent extrêmement contraignantes pour l'animal, pas grave s'il y a une machine, mais pour ceux aussi qui assurent les soins. Deuxième vague, la génétique contemporaine est peut-être en voie d'assurer la seconde vague de cette réification de l'animal, du moins au niveau du discours. Dès 1961, Ernst Mayr avançait ainsi qu'un programme génétique est inscrit dans la séquence nucléotidique des ADN. Et ce programme fournit, dit-il, une explication mécanique, non vitaliste, au développement orienté et au métabolisme des organismes. Le programme de la génétique est alors tout tracé. Il suffit de décrypter le code génétique pour comprendre les mécanismes fondamentaux du vivant et pour les maîtriser. Le génie génétique qui va se développer comme technique permettant justement de comprendre les mécanismes génétiques est inventé pour séquencer, dupliquer, enrichir d'informations nouvelles le programme inscrit dans n'importe quel génome. Les zootechniciens s'étaient jusqu'alors contentés de rationaliser la sélection et d'adapter les animaux tant aux objectifs d'une production intensive qu'aux contraintes qui étaient imposées par l'élevage. Grâce aux biotechnologies, ils ont des ambitions plus vastes, celles de modifier le programme de leur engin cybernétique. Car l'objectif du génie génétique est bien de fabriquer, et le terme est employé sciemment par les scientifiques, fabriquer des animaux reprogrammés pour développer des caractéristiques intéressantes. Que ces caractéristiques soient intéressantes pour la recherche scientifique, par exemple, on produit pour la recherche médicale des souris qui vont développer un cancer ou la maladie d'Alzheimer, soit pour l'élevage. Je songe aux enviropigs canadiens qui fixent le phosphate sur leur propre corps et polluent moins que les cochons ordinaires. Ce que fait le phosphate dans leur propre corps, je ne sais pas très bien, je crois qu'ils sont assez arthritiques. Certes, il y a loin du programme aux réalisations, de l'anticipation d'une science comme si elle était déjà faite à les réalités de la recherche telle qu'elle se fait au quotidien. Une simple enquête dans des laboratoires que nous avons eu l'occasion de fréquenter nous a ainsi convaincus que les constructions génétiques de la transgenèse sont des bricolages très mal maîtrisés, dont on ignore largement les conséquences sur la biologie et sur le comportement de l'animal. Mais des végétaux tout autant, d'ailleurs. Je dis l'animal, c'est pas uniquement. Même remarque pour le clonage. Combien d'échecs? Combien d'embryons et d'avortons non viables pour un résultat spectaculaire? C'est extrêmement coûteux. S'il y a tant de casse... J'utilise le terme de casse, donc je me suis laissé impressionner par la réification de l'animal. S'il y a tant de casse, c'est sans doute parce que les animaux ne sont pas réductibles à un programme génétique. C'est sans doute aussi, et plus probablement encore, parce qu'il convient d'abandonner, comme l'a proposé Henri Atlan, l'idée même d'un programme inscrit dans le génome. Alors, les neurosciences et les sciences cognitives n'ont pas été, du moins jusqu'à nos jours, aussi étroitement associées à des visées d'innovation technologique. On peut néanmoins considérer qu'elles proposent une nouvelle voie de mécanisation de l'animal, l'ultime, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit de ce qui avait été le point aveugle des autres disciplines, le comportement et l'univers mental des animaux. L'animal est en fait en première ligne du programme de naturalisation de l'esprit. Si on prend par exemple l'analogie du cerveau et de l'ordinateur, n'invite-t-elle pas à appréhender le comportement de l'animal comme le traitement, plus ou moins complexe, d'informations stockées dans ses structures neuronales et de celles qui lui parviennent de son environnement par le truchement de ses organes sensoriels. L'animal-machine est donc bien à l'ordre du jour. La machine s'est simplement de plus en plus perfectionnée.
Oui, alors ce que Raphaël vient d'appeler la réification de l'animal, le terme même de réification, ne signifie-t-il pas que réifier l'animal, c'est lui nier tout statut éthique, toute possibilité, la reconnaissance que l'animal mérite notre considération morale. Des chercheurs de l'INSERM, par exemple, reconnaissaient, dans une discussion que nous avions avec eux, qu'ils traitaient finalement différemment les souris transgéniques, des souris normales, si je puis dire, en ce sens qu'ils avaient tendance à considérer les souris transgéniques manipulées génétiquement comme de purs artefacts et que le peu de sensibilité qu'un chercheur de laboratoire peut manifester à une souris normale n'existe même plus pour une souris transgénique. Alors, je crois en fait que les choses sont plus compliquées, qu'il ne s'agit pas donc de partir dans une opposition entre l'animal-machine contemporain et le refus de tout statut éthique qui lui serait reconnu. Et je crois qu'on peut revenir sur ce point un peu à Descartes, qui était bon, la référence de ce terme même d'animal-machine, et faire ressortir la différence entre l'animal-machine cartésien et l'animal-machine contemporain. Et une différence qui n'est pas seulement une différence de complexité de modèle. Le modèle thermodynamique est bien sûr beaucoup plus complexe que le modèle purement mécaniciste cartésien, mais il y a une différence de plus, c'est que l'affirmation par Descartes et par ceux qui se rallient à la thèse de l'animal-machine, affirmer que l'animal est une machine, c'est ouvertement lui dénier toute sensibilité, c'est ouvertement, on connaît l'histoire de Malebranche battant son chien, en tout cas l'anecdote qu'on raconte, et disant il ne sent rien, ses cris, c'est purement mécanique. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le rejet de la thèse cartésienne de l'animal-machine, l'affirmation que les animaux sont sensibles, a très vite des conséquences éthiques. On connaît le fameux texte par lequel Bentham, en 1789, déclare que, je cite la phrase qu'on cite toujours, « l'important n'est pas qu'il pense, mais qu'il sente hein, », et que donc tout être sensible, donc tout être susceptible de souffrir, a droit à la considération morale, qu'il soit humain ou animal. Or, la situation aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était avec l'animal-machine cartésien. En ce sens que les programmes actuels de mécanisation du vivant, et tout particulièrement les programmes cognitivistes, rejettent le dualisme cartésien, il a été assez parlé jusque-là, et donc ils peuvent prendre en compte la sensibilité animale, fournir des éléments d'analyse et de mesure du bien-être ou du mal-être animal plus fiables que les impressions populaires auxquelles quelqu'un comme Bentham pouvait renvoyer. Donc on se trouve devant la situation suivante, que d'une part, on peut condamner la mécanisation de l'animal au nom des souffrances qu'elle inflige aux animaux ainsi traités comme des machines, qu'il s'agisse d'animaux d'élevage ou d'animaux d'expérience. On peut, et d'ailleurs dans un certain nombre de comités d'éthique, se sont opposés à des formes de mécanisation de l'animal ou non de la souffrance animale. Mais en même temps, et c'est l'autre aspect du paradoxe, les programmes cognitivistes permettent une estimation du bien-être et plus généralement des capacités cognitives des animaux qui permettent de donner un contenu aux revendications du bien-être animal et donc aux limites éthiques imposées à l'expérimentation animale ou à l'élevage animal.
Alors, c'est donc dans ce contexte, effectivement, une communauté scientifique s'est structurée sous le label de l'animal welfare. Elle est bien plus développée, d'ailleurs, dans les pays d'Europe du Nord qu'elle ne l'est en France, mais elle s'est développée aussi
d'où
en France.
Quoi ? D'où son nom anglais.
D'où son nom anglais, oui. Oh, ben, puis c'est parce que c'est d'inspiration utilitariste aussi. Donc, c'est une communauté dans laquelle on trouve effectivement des spécialistes du comportement animal, mais aussi de l'univers mental, des aptitudes cognitives. On trouve des neurophysiologiques, mais aussi des spécialistes d'éthique animale, des philosophes et même dans les pays du Nord, des théologiens. C'est cette communauté qui a traduit les contestations protectrices issues de la société en termes de bien-être et qui a fait valoir d'une certaine façon son expertise tant pour évaluer la réaction des animaux aux contraintes qui leur sont imposées que pour contribuer à la définition de nouvelles normes de production. Alors c'est tout un ensemble de recherches sur lequel nous n'avons pas encore fait d'enquête systématique. Hein. Bon, et c'est donc présente un certain nombre d'hypothèses un peu à la louche, quoi, d'une certaine façon. Mais disons que comme toute communauté scientifique en cours de construction et comme toute communauté scientifique qui fonctionne normalement, elle est traversée, bien évidemment, par des controverses. Et je vais au moins présenter un peu l'état actuel de la situation. Il y a au moins une chose qui n'est pas sujet à controverse, c'est que pour tous, le bien-être est un état mental et un état mental individuel que l'on ne peut évaluer qu'individuellement. Donc l'animal, ça intéresse des animaux individualisables et on ne s'intéresse qu'à l'individu. Alors, on va voir coexister comme ça trois définitions du bien-être. Une définition minimale selon laquelle le bien-être se réduit à l'absence de maladie, de morbidité, de blessure, de douleur manifeste. Une seconde définition s'en tient aussi à une définition négative, c'est-à-dire que l'animal, le bien-être, c'est l'absence de souffrance, mais elle estime que ce n'est pas parce que l'animal doit s'adapter à un milieu contraignant qu'il souffre. Elle estime qu'il souffre s'il ne parvient pas à mobiliser ses ressources mentales et physiologiques pour faire face à la situation qui lui est imposée. C'est d'ailleurs la voie qui a été retrouvée, tout du moins en France, par la plus grande partie des chercheurs. Et ils se lancent dans la recherche d'indicateurs biologiques ou comportementaux d'un stress issu des difficultés d'adaptation à l'environnement. L'ensemble de ces travaux, par construction, visent à protéger l'animal de la souffrance, mais sans remettre en question le modèle de production industrielle auquel il est soumis. Certains chercheurs, enfin, adoptent une conception positive du bien-être. Le bien-être est alors pour eux l'état dans lequel se trouve l'animal quand il peut exprimer le comportement naturel à son espèce, ou bien quand il réalise ses aspirations. Cette définition maximaliste est en général adoptée par des spécialistes de neurosciences, dans la mesure où elle prend en compte le monde subjectif de l'animal. Et beaucoup des gens, de ceux qui ont adopté cette définition, sont extrêmement critiques vis-à-vis des travaux qui ont été faits par les tenants des deux définitions précédentes et proposent généralement des solutions beaucoup plus radicales de réforme de l'élevage. Mais le même point de vue a aussi conduit certains éthologistes à inventer des dispositifs expérimentaux censé exprimer les préférences des animaux. On tente ainsi d'évaluer le prix en termes de dépenses énergétiques que le canard est prêt à consentir pour accéder à une mare, et un de mes collègues a même cru montrer ainsi que les poules préfèrent les cages à la liberté. Alors, repris dans le jeu des lobbies, d'une part les filières de production animale, qui sont des lobbies extrêmement puissants, contre les associations de protection d'animaux, qui sont des lobbies qui connaissent très bien leur métier aussi auprès de Bruxelles, les résultats de ces travaux aboutissent à des directives européennes imposant de nouvelles normes au nom du bien-être animal. C'est C'est ainsi que l'être sensible, celui au nom duquel on refuse que les animaux soient traités comme des objets ou des machines, est intégré dans la production industrielle de l'animal-machine. Certains spécialistes de neurosciences ont de ce fait critiqué l'ensemble des recherches effectuées sous le label de l'animal welfare. Ils mettent en avant l'impossibilité qu'il y a d'évaluer la souffrance par de simples indicateurs biologiques ou comportementaux et proposent de développer au préalable des recherches sur l'univers mental des différentes espèces. Je cite par exemple Robert Danzer. Le bien-être animal, écrit-il, n'existerait pas en tant qu'objet de recherche, il s'adresse à ses collègues, si les animaux d'élevage n'étaient pas censés avoir des émotions, au sens de l'expérience subjective associée à ces émotions. Si l'on veut juger du bien-être sur des critères raisonnés, on ne peut faire autrement que de se demander quelles capacités ont les différentes espèces à ressentir des émotions. C'est ici que le programme de naturalisation de l'esprit peut s'appliquer et en particulier dégager des explications à la subjectivité des animaux. C'est par exemple la tentative de Joël Proust. Joël Proust craignant manifestement la stigmatisation d'anthropomorphisme, s'est imposé une mesure d'austérité. Elle a donc cherché si l'on pouvait trouver au sein du règne animal non humain les conditions minimales, précise-t-elle, pour que l'on puisse parler d'activité mentale, de représentation et d'intentionnalité. Or, à l'issue d'une longue et prudente enquête, elle répond par l'affirmative et parvient même à établir que certaines espèces, parce qu'elles sont capables de dissocier leurs états représentationnels, je cite, des situations que ces états représentent, ont ainsi une relative maîtrise de l'objectivité. Mais alors, si un animal est capable de concevoir un monde objectif et de planifier son action ou de régler son comportement sur la base des propriétés qu'il attribue à cet état du monde, alors il a un point de vue subjectif sur le monde. Ne rejoint-on pas là l'éthologiste Jacob von Wechsel, pour qui l'animal a un monde de signification, c'est-à-dire d'objets signifiants pour lui et pour lui seul. Aussi, bien qu'il s'inscrive dans un processus de mécanisation de l'animal, homme compris, le programme cognitiviste peut aussi apporter de l'eau au moulin d'éthiques animales plus radicales que la simple prise en compte utilitariste de la souffrance et du bien-être. En tout état de cause, il peut les informer. Lorsque Tom Regan accorde une valeur inhérente aux animaux qui sont les sujets d'une vie, subvertissant ainsi la déontologie kantienne, lorsqu'il argumente que de telles bêtes ont des droits, il donne un ensemble assez hétéroclite de critères. Ensemble qui varie d'ailleurs dans ses textes selon les circonstances. Les sciences cognitives sont-elles en mesure de préciser ce que peut signifier « subject of life » ou bien sont-elles en mesure de préciser ce que signifie la vie cognitive qui, selon Joël Feinberg, fait que les animaux qui en sont dotés ont des intérêts qui peuvent être défendus par des droits. Plus généralement, peuvent-elles, en progressant dans la connaissance de l'univers mental et de la subjectivité des animaux, nous éclairer sur ce qu'il y a à respecter chez certains animaux, au-delà même de l'être sensible, ainsi que sur le champ des animaux qui sont dignes de ce respect. Serait-ce donc à dire que ce qui nous semblait être l'ultime entreprise de mécanisation de l'animal peut nous donner les moyens de sortir de la réification de l'animal dans l'élevage moderne ? Partiellement, peut-être, et je laisse la parole à Catherine.
Je viendrai pour un dernier point à des critiques qui, au contraire, rejettent et l'animal-machine et les tentatives, disons, pour aller vite, cognitivistes, pour trouver une éthique, enfin, pour déterminer les données qui permettraient de construire une éthique de l'animal-machine. Je voudrais, donc, pour terminer, parler de critiques qui rejettent et la mécanisation et la réification de l'animal dans tous ces aspects. Alors, je ferai allusion à deux types de critiques qui ont été opposées. L'une qui s'appuie sur le concept d'intégrité et l'autre que nous avons développé qui s'appuie sur l'idée de la sociabilité animale. Alors, sur le concept d'intégrité, il y a été fait référence par le précédent intervenant. C'est un concept qui est très utilisé actuellement dans le champ de l'éthique, et dans l'éthique humaine, mais qui a été également appliquée à l'éthique animale et même aux questions végétales, mais je n'en parlerai pas, qui a été appliquée à l'éthique animale, par exemple par quelqu'un comme Peter Sandow. Sur, alors là, j'ai absolument tort de ne pas avoir de transparent, de PowerPoint, parce que je vais être obligée de vous expliquer quelque chose qui serait beaucoup plus simple de vous montrer. Sur des cas qui existent dans l'élevage, qui sont des cas d'animaux qui suscitent une gêne morale chez ceux qui les voient, et quand Peter Sandow montre ses diapos, ça marche très bien, j'aurais dû les apporter, et qui pourtant, sur la question du bien-être, on ne peut pas trouver de critique ou de limite à ce type d'élevage. Alors, un exemple, c'est ce qu'on appelle en anglais le « blue cattle », qui en français le « blanc-bleu belge hein. ». C'est des bœufs qui ont un arrière-train quatre fois grand comme un bœuf déjà bien élevé, si je puis dire. Mais le charolais a l'air maigre à côté du blue cattle. Bon, donc
c'est
voilà...
C'est
un superculard charolais. Donc voilà un animal qui provoque une gêne par sa difformité. Si on fait des calculs, des analyses de bien-être, quelles que soient les références qu'on prend, il n'y a pas de raison de s'opposer à son élevage. Autre exemple...
Oui. On ne met pas que par césarienne.
Mais les charolaises déjà. Bon. Autre exemple où les critères de bien-être ne permettent pas de donner des normes restrictives alors qu'il y a une gêne morale. C'est, vous savez, quand on concentre des poules dans un poulailler, au bout d'un moment, elles arrivent à se battre, hein, d'où, effectivement, là, du mal-être pour l'animal. Et donc, eh bien, on les aveugle, on les modifie, enfin, on agit de façon à ce qu'elles soient aveugles, elles ne se battent plus, donc elles ne souffrent plus. Il y a pourtant une certaine gêne morale à voir ce genre de pratique. Et c'est pour ce genre de choses que Peter Sandow fait référence au concept d'intégrité. Alors, pour aller vite, je m'appuierai sur ce que Pierre-François Moreau disait hier dans sa présentation. Le concept d'intégrité est un concept d'unité, de l'idée de l'unité, de la cohérence, d'une vie qui... repose sur le refus de ne se tenir qu'à, pour reprendre la distinction de Pierre-François Moreau hier, à la seule biologie, pour prendre en compte la biographie, ou ce qu'on appellera l'histoire, une histoire de vie ou l'histoire d'une vie. Donc l'idée qu'un animal n'est pas simplement un certain nombre d'éléments biologiques, mais a une unité dynamique qui s'insère dans une histoire, histoire qui n'est pas seulement son histoire propre, mais qui est l'histoire évolutive de son espèce. Alors, de ce point de vue-là, on peut montrer que des animaux comme le blue cattle ou des poules qu'on fait naître aveugles sont complètement sortis de... C'est contraire à leur intégrité, parce que ça s'oppose à tout ce qui a été leur dynamique évolutive dont ces animaux font partie. Autre élément que je prendrai pour essayer d'expliquer comment le concept d'intégrité permet de critiquer un certain nombre de pratiques de mécanisation, de réification de l'animal, en faisant référence à l'exemple que prenait Raphaël, disons la vache folle. Bon, la phrase populaire, le jugement populaire qu'on entend souvent à propos de la vache folle, c'est pas étonnant qu'elle soit devenue folle, vu qu'on les a rendus carnivores, alors que les vaches sont herbivores, certains diront même végétariennes. Or, un tel argument ne vaut absolument rien pour un zootechnicien réductionniste, hein, puisqu'il dira que bon, les vaches ont besoin de protéines, que quelle que soit l'origine de ces protéines, qu'elles soient animales ou végétales, ça n'a aucune importance, c'est la même molécule, donc peu importe. Quelle que soit l'origine des protéines qu'elles mangent. D'autre part, c'est un argument faux, parce que, comme le rappelait Raphaël, c'est pas parce qu'on leur a donné de la farine animale qu'elles ont été victimes d'encéphalopathie spongiforme bovine. C'est parce qu'il y avait des prions dans les farines animales. Troisièmement, toujours en faisant référence à ce que disait Pierre-François Moreau hier, dire que les vaches sont faites pour être herbivores, c'est typiquement, voire végétariennes, c'est typiquement un argument finaliste. Pourtant, je dirais, il y a un élément de vérité dans la remarque que peut permettre de comprendre le concept d'intégrité, en ce sens que nourrir des vaches avec des farines animales, c'est effectivement complètement les retirer de tout ce qui a été leur histoire évolutive, et une histoire évolutive qui a continué comme telle, même à partir du moment fort éloigné où elles ont commencé à être élevées. Donc on peut dire, de ce point de vue-là, qu'il y a une mécanisation de l'animal qui est contraire à l'idée d'intégrité comme façon de lier la biologie et la biographie, de dire que les animaux aussi, eux, les animaux aussi ont une histoire de vie. Alors j'en viens au deuxième argument, et ça sera le dernier, qui est la question, bon, ce que j'appelais la sociabilité animale. Bon, je rappellerai ce que disait Raphaël, que dans l'élevage industriel, la mécanisation de l'animal consiste, entre autres choses, à individualiser l'animal dans l'anonymat, il est traité comme une unité numérique. On regroupe les animaux en lots les plus homogènes possibles, ce qui les coupe de leur environnement social au double sens de relation des animaux entre eux et aussi de relation avec leur éleveur. Or, de ce point de vue-là, on peut dire que la mécanisation de l'animal détruit des relations traditionnelles qui ont été la condition de possibilité de succès de la domestication dans son implantation et dans son développement. Alors, pour rappeler rapidement des points que nous avons développés ailleurs, bon, mais ça, c'est ce que disent tous les spécialistes d'histoire des animaux et de la domestication, c'est que les espèces domestiquées par l'homme sont des espèces sociables. Hein, seuls les animaux jouissant dans le milieu, ayant dans le milieu naturel une vie sociale avec hiérarchisation et dominance, ont pu être domestiqués par l'homme avec... le fait que très souvent l'homme a occupé la place de l'animal dominant et a ainsi capté vers lui une série de relations qui s'exerçaient entre animaux, et que d'autre part, dans la domestication des animaux, on a utilisé de façon opportuniste les relations hiérarchiques entre les animaux pour obtenir les buts que l'on recherchait. Chacun sait comment, enfin il suffit, on voit encore quelques vaches à l'extérieur, revenir du pâturage, voir comment une vache est capable d'en conduire d'autres, et cette capacité donc à rechercher les vaches qui ont des capacités hiérarchiques de ce point de vue-là. Donc on peut dire que la domestication est le résultat d'un processus de socialisation impliquant les hommes et les animaux qui vivaient entre eux. Très souvent, c'est le cas du chat par exemple, les animaux domestiqués ont été d'anciens commensaux, c'est-à-dire des animaux qui partageaient le même lieu de vie sans avoir de relation. Et donc, reprenant l'idée de la philosophe Mary Midgley, on peut dire de ce point de vue-là que les sociétés humaines ont toujours été des sociétés mixtes, en ce sens qu'elles ont toujours inclus des animaux. Des animaux qui n'ont pas été traités comme des machines, mais comme des partenaires sociaux. Et c'est bien parce que les animaux n'ont pas été traités comme des machines, c'est-à-dire dans la pure imposition d'un rapport de force, que la domestication a pu réussir. C'est parce qu'il y a eu échange réciproque, non égalitaire, mais échange entre les hommes et les animaux domestiques avec lesquels ils vivaient, que le processus de domestication a pu se continuer et se développer. C'est à ce sujet que nous avions introduit, Raphaël et moi, le concept de contrat domestique pour désigner, bon, ça a toute une tradition philosophique d'ailleurs, qui remonte au moins à Lucrèce, pour désigner le type de rapport et d'obligation qui se crée dans les échanges, dans la domestication entre l'homme et l'animal. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que la mécanisation de l'animal est une rupture de contrat, hein, et qu'en ce sens, donc une faute morale de ce point de vue-là. Et en ce sens, le souci du bien-être animal manifesté dans les élevages industriels, bien loin d'être une volonté de mesurer les rapports entre l'homme et l'animal, de remplir le contrat, est au contraire l'enregistrement de la rupture de ce contrat. Et j'en prendrai simplement comme exemple le fait que les normes, les directives européennes dont parle Raphaël, contraignent généralement à un isolement des animaux d'élevage, hein, alors traitement en lot individuel, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas applicables hors élevage industriel, que ça peut avoir des conséquences d'ailleurs assez catastrophiques sur d'autres formes d'élevage, Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire, bon, non seulement les vaches sont devenues folles, mais il y a eu rupture du contrat domestique. Donc je dirais de ce point de vue-là que donner l'argument de la sociabilité, c'est s'opposer doublement à l'animal-machine, c'est poser, et je pense que la mécanisation, c'est, disons, s'opposer à ce qui est un présupposé de la mécanisation de l'animal, qui est le traiter comme un individu ayant l'ensemble de ses dispositifs mentaux, et donc de nier le rôle des relations sociales et de relations sociales interspécifiques dans nos rapports avec l'animal, avec les animaux et la façon de les traiter. L'autre opposition à l'animal-machine, c'est l'idée qui est l'histoire de la domestication, c'est qu'il y a des communications entre l'homme et les animaux, entre les hommes et les animaux, des communications certes non langagières, mais qui ne se peuvent pas se modéliser uniquement comme un traitement de l'information, parce qu'elles impliquent des affects, et donc qu'elles renvoient à une situation beaucoup plus complexe que celle que pourrait modéliser une machine. Alors pour terminer, je vois bien que je suis en train de dépasser mon temps, mais pour terminer, je voudrais simplement, en revenant à l'exposé de Pierre-François Moreau hier, si ceux qui ont suivi cet exposé auront peut-être reconnu dans les objections qu'on peut faire, aussi bien du point de vue de l'intégrité que du point de vue de la sociabilité à la mécanisation de l'animal, que ces objections s'appuient sur ce qu'il avait appelé les représentations non scientifiques du vivant. On y retrouve aussi bien l'étrange familiarité de l'homme avec l'animal, qui est la base de la domestication. On y trouve, j'y ai fait explicitement référence, le fait que le concept d'intégrité est une façon de passer de la biologie à la biographie, et de prendre en compte l'idée d'une histoire de vie, history of life, et on y trouve aussi le souci du complexe, l'idée que l'animal est trop complexe, que les relations des animaux entre eux sont trop complexes pour qu'on puisse les modéliser avec une machine. Je nie nullement cela. Simplement, la question que je poserais, ces représentations, effectivement, non scientifiques, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la réaction populaire à « c'est pas étonnant qu'on ait rendu les vaches folles en leur faisant manger de la viande ». Ces représentations sont non scientifiques, en ce sens qu'elles s'appuient sur des représentations, des pratiques qui ne sont pas forcément élaborées scientifiquement. Sont-elles pour autant anti-scientifiques, au sens où il faudrait les mettre de côté pour développer à une interrogation scientifique, à la façon dont Descartes, par exemple, a pu condamner l'explication par les causes finales. Je ne crois pas qu'elle soit anti-scientifique, ne serait-ce que parce que des développements scientifiques postérieurs à Spinoza, d'ailleurs, mais peu importe, des développements scientifiques plus ou moins récents, l'auront, je ne dirais pas donné raison, mais les ont prises en compte, et en tout cas, permettent d'en rendre compte. Je pense que la théorie darwinienne de l'évolution peut rendre compte non seulement de notre proximité à l'animal, mais aussi de cette étrange familiarité, avec une histoire évolutive prenant en compte non seulement une histoire de la biologie, mais une histoire de l'éthologie, peut rendre compte. De la même façon, tout le monde sait ici qu'il y a des disciplines scientifiques qui prennent le complexe comme une référence positive à élaborer. On pourrait dire la même chose sur l'idée d'histoire de vie. Donc, il me semble, de ce point de vue-là, que ce que nous rappellent ces objections, c'est pas que l'éthique serait fondée dans des représentations vulgaires anti-scientifiques, mais que l'animal de machine ne représente qu'une représentation scientifique parmi d'autres, et que pour mettre, disons, les pratiques techniques en accord avec nos exigences éthiques, on peut faire appel à d'autres représentations scientifiques et pas simplement en venir à une sorte d'opposition anti-scientifique à une forme de science.
Bien, merci aux deux intervenants. Je rappelle, la nécessité devient de plus en plus absolue au fur et à mesure que l'après-midi avance. Je demande donc à tout le monde de limiter le plus possible ses interventions à des questions et de même aussi aux intervenants à la tribune d'être le plus bref possible. Merci d'avance. Monsieur Duchesneau.
Il arrive. Je crois que... m'embarrasse un peu à poser, parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises des notions qui s'ajustent ou ne s'ajustent pas au darwinisme. Je pense qu'à un certain moment, vous avez évoqué la notion de comportement naturel d'une espèce. Et puis ensuite, vous avez évoqué l'histoire de la domestication de certaines espèces. Il me semble que, dans le fond, si on adopte un point de vue darwinien, les seules relations qui puissent se concevoir en fonction de la théorie sont des relations, disons, d'utilisation de l'autre pour des fins de reproduction, de survie et de reproduction différentielle. Donc, si la théorie de la sélection naturelle vous sert de référence, elle n'établit pas beaucoup de normes dans le sens que vous souhaitez voir établir. Et en particulier, toute notion d'équité échappe complètement à cette perspective, disons, sélectionniste. D'autant plus qu'on passe du domaine de la sélection naturelle à celui de la sélection artificielle, qui, elle, n'a plus à des normes, je dirais, toujours les mêmes normes d'utilité, mais de façon beaucoup plus arbitraire.
Oui, donc, la relation, effectivement, entre la référence darwinienne et alors, avec l'idée, en fait, de comportement naturel de l'espèce, d'une part. Hein. Bon, alors, ça, si vous voulez, le... Quoi ? Ça va. Bon, alors là, non, si vous voulez, ça, c'est quelque chose que j'ai repris. C'est repris par un courant d'éthologistes. Je ne le reprends pas à mon compte. Hein, donc, j'ai compris ça. D'un point de vue darwinien, mais disons que la sélection a équipé les hommes. D'une capacité extraordinaire de communiquer avec d'autres animaux. Hein? Elle a équipé d'autres animaux aussi de communiquer. La communication interspécifique est absolument pas inconnue dans le monde animal. Mais l'homme a été particulièrement bien équipé pour arriver à interpréter. Interpréter par anthropomorphisme, d'ailleurs, mais interpréter pas si mal que ça les intentions des animaux. Et pour pouvoir donc, d'une certaine façon, utiliser à son profit certains comportements d'animaux. Et donc, je ne vois pas en quoi c'est contradictoire.
Je vais rajouter une chose, juste un tout petit peu, pour répondre à ce que dit M. Duchesneau. Il ne s'agit pas de trouver des normes. Il s'agit simplement de s'appuyer sur des représentations scientifiquement informées pour donner sens à nos intuitions morales. C'est pour ça, bon, j'ai bien dit, le rapport au Blue Cattle, il y a quelque chose comme un scandale moral, et ce scandale moral ne peut pas être expliqué par des normes de bien-être. Il peut être expliqué par un critère d'intégrité.
Une autre demande d'intervention ?
Oui, je voudrais voir un tout petit peu plus clair sur le problème de la mécanisation du vivant, qui est au cœur de ce que vous avez dit, et qui serait incompréhensible si, me semble-t-il, on n'y voyait pas aussi la trace continuelle des investissements financiers. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans mécanisation, vivant et finance. Alors, dans ce contexte-là, ce qui me frappe, c'est que, bien évidemment, que cette mécanisation du vivant, c'est l'un des résultats, mais peut-être pas le seul, de l'origine des sciences biologiques, c'est-à-dire comme le réductionnisme constitutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'inanimé et le vivant, entre le non-vivant et le vivant. Et donc, je verrais volontiers le grand modèle qui est le modèle de la matière inerte dans le traitement des animaux domestiques, etc., c'est-à-dire de stockage, de découpage en parties, avec, pourquoi pas, des porteurs d'organes, des animaux porteurs d'organes ou de parties de corps, vous savez, ces souris dans lesquelles on a greffé une oreille, par exemple, des tas d'affaires de ce type-là. Et donc, ma question, c'était est-ce que, en arrière-plan, ce qui est le plus frappant, ça n'est pas la déroute intellectuelle en biologie, chez certains biologistes ou ceux qui travaillent là-dessus, et qui est que nous sommes par ailleurs en totale dépendance des animaux, mais aussi des végétaux. Je veux dire que si la disparition, c'est un peu des questions que je vous pose quand même, que tout cela se fait dans un traitement mécanisé des animaux domestiques, mais avec par ailleurs des démolitions d'écosystèmes, et on en est, je crois, à 14 000 espèces animales, disons mobiles, menacées, et des dispositifs de ce type-là. Et donc, je voudrais simplement me poser des questions et me dire que ce type d'appréhension du vivant et de discipline scientifique venant appuyer cela ne résume pas, c'est quand même le comble que ce soit moi qui défende quand même encore certains aspects de la biologie, ne résume pas tous les travaux en biologie sur les écosystèmes, etc.
Merci.
Voilà, c'est-à-dire que les
argumentaires... Vous voulez bien laisser répondre les orateurs.
Ma question,
vous
c'est les argumentaires moraux, oui. Et du type normatif, là aussi, ne vous semble-t-il pas insuffisant et qu'il faudrait amener aussi sur le terrain ces choses aussi élémentaires que la destruction de la diversité, etc.
D'accord, merci.
L'érosion de la biodiversité plutôt, parce qu'il en reste un peu quand même encore. Non, ce que je voulais dire, je crois que, comment dire, notre souci dans notre intervention, je crois, a été d'éviter un certain réductionnisme. Hein, nous essayons de nous référer au complexe, donc dans les critiques que nous pouvons faire, de ne pas être trop réductionniste et de montrer que, à la différence de la référence toujours très caricaturale qu'on a à l'animal-machine cartésien, la conception moderne de la mécanisation de l'animal n'est pas forcément sa réduction à la matière inerte, qui a un progrès peut-être pas en complexité, mais en subtilité de l'analyse, en même temps que la mécanisation, et que donc c'est pas une histoire totalement manichéenne.
Totalement négative. Alors sur la très rapidement sur la question, bien évidemment qu'il y a des enjeux financiers considérables derrière le processus que j'ai expliqué et les transformations justement des sciences de l'animal, ça c'est évident, hein, c'est évident. D'autre part, je pense, nous n'avons pas voulu évoquer les replacer dans un notre questionnement dans un système plus vaste. Ça serait envisageable, hein. On est plus spécialiste d'éthique environnementale que d'éthique animale, donc on aurait pu le faire, mais on s'est dit qu'on allait étudier plus précisément l'animal d'élevage, pas du tout l'animal domestique, qui pose d'autres problèmes, ni l'animal de compagnie, hein. L'animal sauvage est étudié par d'autres disciplines, c'est l'éthologie, c'est l'écologie, c'est la gestion des stocks, etc. Donc, on a pris le parti de ne parler que de l'animal de rente, hein, de production.
Bien, merci à tous. Nous restons donc sur le thème de l'animal.